nous allons maintenant bientôt donner la parole à nos deux intervenants, Olivier Laurent et Anne-Marie Gallen. Je vais vous lire la présentation que Bruno Cotte, il est tradition de présenter les orateurs, et Bruno Cotte m'a transmis la présentation qu'il souhaitait vous donner de ces deux intervenants que nous remercions beaucoup. Je le cite, donc, « La cour d'assises est sans nul doute la juridiction la plus connue. C'est le domaine de prédilection des grands chroniqueurs judiciaires. La presse nationale ou régionale rend compte des procès qui comptent. On a pu, ou l'on peut encore, être juré. La littérature s'est souvent emparée de la cour d'assises. Qu'il s'agisse des souvenirs de la cour d'assises d'André Gide, du procès d'Émile Zola devant la cour d'assises de la Seine pour les diffamations de J'accuse, que J'accuse aurait contenues envers le Conseil de guerre, les procès de presse, souvenons-nous, se déroulaient alors devant la cour d'assises. Songeons aussi à Flaubert et à Madame Bovary. Jean Giono a couvert le procès de Gaston Dominici au mois de novembre 1954. François Mauriac a rendu compte en termes poignants de procès d'assises auxquels il a assisté, ce qui lui permettait de mettre difficilement en balance justice et charité, justice et compassion, justice et miséricorde. Il m'a semblé qu'il s'imposait que des praticiens chevronnés puissent vous parler de la cour d'assises, de son évolution, des réformes intervenues au cours du temps, des cours d'assises avec jurés ou sans jurés, celles qui sont appelées à connaître certains types d'affaires, terroristes notamment, des toutes nouvelles cours criminelles départementales, du nombre d'affaires en instance de jugement, ce qui conduit à juger tard, très tard, trop tard, du principe de l'oralité des débats, de cette alchimie singulière qui est celle du lien si particulier qui va se créer entre un président de la Cour, magistrat professionnel, et les jurés brusquement immergés dans un monde qui n'est pas le leur et qui pourtant vont devoir juger et fixer une peine. Pour évoquer ces différentes questions et répondre ensuite à vos questions, nous avons la chance d'avoir avec nous Olivier Laurent, actuel président du tribunal judiciaire de Marseille, mais qui a longtemps présidé la cour d'assises de Paris. Il fut préalablement juge d'instruction au Havre, à Rouen, à Créteil, secrétaire général de la présidence du tribunal de Paris, vice-président des deux des chambres les plus délicates du tribunal de Paris, la 16e, grande délinquance, et la 11e, chambre financière. À partir de 2009, il présidera la cour d'assises de Paris, affaire Carlos, l'affaire du gang des barbares, et la première affaire liée au génocide rwandais par le biais de la compétence universelle. Puis il fut président de la chambre de la cour d'appel de Versailles, directeur de l'ENM en 2016, avant Madame Nathalie Roret, que vous avez entendue en janvier dernier, et avant de rejoindre comme président en 2020 le tribunal de Marseille, l'un des plus importants de France. Ensuite, nous entendrons Madame Anne-Marie Gallen, qui est actuellement présidente de la chambre à la cour d'appel de Douai, et elle préside les cours d'assises du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que les cours criminelles départementales de ces deux départements. Elle a auparavant occupé différents postes au tribunal de Lille, substitut du procureur, juge aux affaires familiales, puis en matière de construction, conseillère à la cour d'appel de Douai, chambre de l'instruction et chambre d'appel correctionnelle économique et financière, procureure de la République adjointe à Lille, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, puis de Douai. Relevons qu'elle fut à la direction des affaires criminelles et des grâces, directrice du projet Cour criminelle départementale. Nul n'est donc mieux placé qu'elle pour nous expliquer la genèse de cette nouvelle juridiction qu'elle préside maintenant. Elle est intervenue à de multiples reprises dans les tâches de formation à l'École nationale de la magistrature, mais aussi à l'École nationale de formation des commissaires de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Voilà, je leur donne la parole. Donc c'est dans l'ordre Olivier Laurent qui prend la parole le premier. Donc pardon de vous avoir pris beaucoup de temps pour ces introductions et ce comité secret impromptu avant la séance, mais vous avez une cinquantaine de minutes à tous les deux.
Monsieur le chancelier, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, nous adressons effectivement, avec Anne-Marie Gallen, ma collègue, par votre intermédiaire, nos souhaits de prompt rétablissement à Bruno Cotte, pour lequel notre admiration est immense. Vous avez intitulé aujourd'hui votre temps de réflexion sur la justice « Regard sur la cour d'assises avec ou sans juré ». Regard au pluriel, car nous aurons l'honneur d'être deux à vous faire part de notre expérience de cette juridiction ô combien emblématique d'une justice rendue au nom du peuple français. Mon regard sera celui d'un magistrat ayant connu la cour d'assises, le plus souvent avec juré, mais aussi parfois sans juré en matière de terrorisme. Un regard donc de l'intérieur et forcément un peu subjectif. Ce qui est certain, c'est que le peuple français revendique aujourd'hui légitimement un droit de regard sur sa justice, tant il est attaché à cette vertu qu'il conçoit tout à la fois comme un service public et un pouvoir indépendant, essentiel à l'état de droit. Permettez-moi de commencer mon propos en évoquant les grands principes qui régissent la cour d'assises, puis en retraçant brièvement l'histoire de cette juridiction et son évolution, afin de mieux comprendre son fonctionnement actuel. On dit fréquemment que la cour d'assises est la fille de la Révolution française. En effet, à l'époque, la déclinaison judiciaire de la notion de souveraineté nationale implique que la justice soit rendue au nom du peuple français par des représentants de la nation. Ainsi, la Constitution du 3 septembre 1791 met en place des tribunaux criminels départementaux composés d'un jury populaire, mais compétent pour statuer sur la culpabilité seule, tandis que les juges, eux, ont pour mission de dire le droit en décidant la peine. Dès cette période, les grands principes qui régiront donc la cour d'assises sont énoncés. Le principe de l'oralité des débats, par méfiance, bien sûr, de l'écrit, en raison du nombre important de citoyens analphabètes. Le principe de la publicité et du respect du contradictoire, de même que la consécration d'une procédure inquisitoire et non accusatoire. Ces grands principes nés de la Révolution demeurent essentiels pour comprendre le fonctionnement de la cour d'assises du XXIe siècle. Le principe de l'oralité, tout d'abord, signifie que l'intégralité des éléments contenus dans le dossier d'instruction doit être débattue oralement au cours des débats et que les jurés n'ont pas accès à la procédure, ce qui les choque assez souvent, notamment lorsqu'un juré exerçant la profession de médecin, par exemple, souhaite vérifier tel ou tel aspect médico-légal dans les constatations ou expertises et qu'il ne peut pas le faire lui-même. Ce principe de l'oralité signifie également que le dossier de la procédure, même s'il contient 40, 50, voire 100 tomes, ce qui arrive régulièrement, c'était le cas pour moi dans l'affaire Carlos, relative à divers attentats commis au début des années 80, et notamment ceux de la rue Marbeuf à Paris et de la gare Saint-Charles à Marseille, ou encore dans l'affaire du génocide rwandais, eh bien, ces dossiers, ces 40, 50, 100 tomes, ne sont pas emportés au cours du délibéré dans la salle des délibérations. Le second principe révolutionnaire fondamental n'est pas propre à la cour d'assises, mais il peut soulever parfois de l'incompréhension. Il s'agit de la publicité des débats. C'est la fin de la lettre de cachet. La justice étant rendue au nom du peuple français, celui-ci, par sa présence, doit pouvoir exercer son contrôle sur son fonctionnement. Mais des exceptions sont prévues, notamment lorsque la publicité pourrait être dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et en matière de viol. Les parties civiles peuvent solliciter le huis clos, total ou partiel, pendant une partie des débats seulement, et on dit de manière imagée qu'elles disposent alors des clés de la salle d'audience, car personne ne peut s'opposer à une telle demande de huis clos. De même, les débats devant la cour d'assises des mineurs se déroulent en publicité restreinte, même lorsque le mineur est devenu majeur au moment de son jugement, ce qui peut nous amener à juger sans publicité, notamment en matière d'infractions sexuelles, pour lesquelles, vous le savez, les délais de prescription ont été fortement allongés, des accusés ayant largement plus de 35 ans pour des faits commis pendant leur minorité. C'est également pour cette raison que l'affaire du gang des barbares, qui portait sur l'enlèvement, la séquestration, puis l'assassinat d'Ilan Halimi, et dont les ravisseurs pensaient que sa seule appartenance à la communauté juive les assurait d'une rançon conséquence, c'est pour cette raison que cette affaire n'a pu être jugée publiquement, car deux des 27 accusés étaient mineurs au moment des faits, alors que ce procès présentait à l'évidence un intérêt essentiel pour mesurer l'état de l'antisémitisme en France à l'époque. À la suite de cette affaire, le législateur a donc décidé, en 2012 seulement, que l'avocat général ou le mineur devenu lui-même majeur pouvait demander à la cour d'assises des mineurs d'autoriser, sous certaines conditions, la publicité des débats. Et donc aujourd'hui, cette affaire aurait pu être jugée publiquement. Le troisième principe est celui du respect du contradictoire. Il signifie qu'aucune pièce ne peut être utilisée au cours des débats si elle n'a pas été communiquée préalablement à l'ensemble des parties, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et d'en débattre contradictoirement. Cette règle paraît découler du bon sens, mais c'est sur le non-respect de ce principe fondamental, rappelez-vous, que le capitaine Dreyfus a été condamné par la production d'un faux au cours du délibéré. En outre, il peut arriver aujourd'hui encore que des partis versent pendant les débats ou la veille de leur ouverture des notes, conclusions, demandes diverses particulièrement volumineuses qui risquent d'emporter le renvoi de l'affaire, faute pour les autres partis d'avoir le temps d'en prendre connaissance et donc de pouvoir y répondre. Enfin, le dernier principe gouvernant la Cour d'assises repose sur la mise en œuvre d'une procédure de nature inquisitoire. Cela est essentiel pour comprendre le rôle du président qui, contrairement au pays de common law ou devant les juridictions pénales internationales d'inspiration anglo-saxonne, dirige intégralement les débats de manière impartiale en veillant que ceux-ci, sous le contrôle des partis, soient autant à charge qu'à décharge et que l'espace de parole soit équilibré entre accusation, partie civile et défense. À cet égard, pour celles et ceux qui ont vu le film « Anatomie d'une chute » de Justine Triet, l'image renvoyée du procès criminel est beaucoup plus celle d'un procès à l'américaine, au cours duquel le président n'est qu'un arbitre, en retrait, laissant l'accusation et la défense mener les interrogatoires et les contre-interrogatoires à leur guise, outre le fait que, dans ce film, la partie civile, c'est-à-dire en l'espèce la famille de la victime, est totalement absente du procès pénal, comme aux États-Unis. Maintenant que ces principes fondamentaux qui forment en quelque sorte le mode d'emploi de la Cour d'assises sont exposés, reprenons, si vous le voulez bien, les grandes étapes de son évolution depuis la Révolution française. C'est avec le Code d'instruction criminelle en 1808 qu'est véritablement créée la Cour d'assises, juridiction non permanente, ce qui justifie son nom. Si la Cour d'assises, née de l'idéal révolutionnaire, est parvenue à traverser les siècles jusqu'à nous, elle a toutefois, en effet, connu un nombre considérable de réformes, souvent liées au réel, au supposé pouvoir d'influence que la magistrature était susceptible d'exercer sur les jurés. Dans un premier temps, le principe de la séparation est absolu et il prédomine. Au juré, la décision sur la culpabilité, au magistrat, le choix de la peine. Mais ce principe a des effets pervers. Ainsi, certains jurys préfèrent acquitter par crainte d'une peine trop sévère. Aussi est-il décidé, en 1832, d'associer les jurés au vote sur les seules circonstances atténuantes. Mais cette réforme ne suffit pas à rendre plus cohérents les verdicts, et il faut attendre 1932 pour que les jurés soient pleinement associés au vote sur la peine, mais après qu'ils aient délibéré seuls sur la culpabilité. C'est en fait en 1941, sous le régime de Vichy, qu'on modifie à nouveau le fonctionnement de la Cour d'assises en créant cette fois un échevinage total, jurés et magistrats statuant ensemble sur la culpabilité et sur la peine. Le Code de procédure pénale de 1958, par la suite, maintient le principe de l'échevinage, mais en augmentant le nombre de jurés à 9 et en exigeant que toute décision défavorable à l'accusé soit prise à la majorité qualifiée de 7 voix au moins, nécessitant donc l'adhésion obligatoire d'une majorité de jurés. Il faut par ailleurs attendre 1978 pour que les jurés soient tirés au sort, non plus parmi les notables, mais sur les listes électorales. 1978. En 1986, à la suite de craintes exprimées par des jurés dans les procès mettant en cause action directe, il est décidé de confier ces affaires criminelles à des cours d'assises spécialement composées de magistrats professionnels uniquement, et il en sera de même par la suite avec les trafics de produits stupéfiants à dimension internationale, mais cela en 1992. Comme vous le savez sans doute, nous nous questionnons aujourd'hui sur l'extension éventuelle de ces cours d'assises spécialement composées de juges professionnels exclusivement aux affaires de criminalité organisée, qui pour le moment sont jugées par des cours d'assises classiques, et notamment en matière de narcotrafic et de ce qu'il est convenu d'appeler les narcomicides. En effet, les risques de pression sur les jurés dans ces affaires et la complexité des investigations, notamment en matière de téléphonie, de géolocalisation ou d'expertise génétique, pourrait militer en faveur de cette professionnalisation de ces cours d'assises. Mais c'est à partir des années 2000, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, que plusieurs réformes d'envergure interviennent. D'abord, par l'instauration d'un droit d'appel avec la loi du 15 juin 2000. Jusqu'en 1981, vous pouviez être condamné à mort, sans appel possible et sans motivation, mais il a encore fallu attendre le 21e siècle pour pouvoir exercer un droit de recours lorsque vous étiez condamné à la perpétuité. À l'usage, on observe d'ailleurs que 25% environ des décisions en appel aggravent la peine, 25% la réduisent et 50% confirment les décisions de première instance. Il a fallu attendre ensuite 2011 pour imposer l'obligation de motiver les verdicts sur la culpabilité et un peu plus tard sur la peine. Par ailleurs, afin d'alléger la lourdeur des procès criminels et sans doute également leur coût, il a été décidé de réduire le nombre de jurés à 6 au lieu de 9 en première instance et à 9
au lieu de 12 en appel. L'enregistrement sonore des débats est devenu obligatoire en appel afin de faciliter le contrôle de la Cour de cassation et la recevabilité des requêtes en révision en permettant de caractériser plus aisément l'élément nouveau qui ouvre droit à un procès en révision. Réforme encore, avec la possibilité de faire appel exclusivement sur la peine et plus sur la culpabilité, avec la possibilité de désigner comme assesseurs des avocats honoraires et des magistrats exerçant à titre temporaire, et avec la mise en place des cours criminelles départementales sans juré, dont vous parlera Anne-Marie Galen dans un instant. Afin de renforcer le principe du contradictoire et d'associer les avocats à la préparation du procès, la loi toute récente du 22 décembre 2021 a introduit l'obligation pour le président d'organiser une réunion préalable de mise en état criminel destinée à fixer, contradictoirement avec l'ensemble des parties, la durée de l'audience, le nombre de témoins et d'experts à entendre, ainsi que leur ordre de passage. Cette loi restaure également la minorité de faveur en prévoyant que la culpabilité ne peut être acquise qu'à la majorité de 7 voix au moins au lieu de 6, soit avec les voix d'au moins 4 jurés sur 6, et donc la majorité des jurés. On retrouve dans cette dernière disposition la suspicion de l'influence réelle ou supposée des magistrats professionnels sur le jury. Enfin, les audiences peuvent, sur décision du Premier président, être entièrement filmées à des fins pédagogiques, avec l'accord préalable de l'ensemble des parties, et non plus seulement pour la constitution des archives historiques de la justice, comme le prévoyait la loi Badinter de 1985. Pour avoir vécu personnellement l'enregistrement intégral du premier procès sur le génocide rwandais, dans le cadre de cette loi, je peux attester que lorsque le dispositif d'enregistrement audiovisuel est discret, ce qui était le cas, il n'exerce en réalité aucune incidence sur le comportement des différents acteurs du procès. C'est dire à quel point cette institution révolutionnaire a évolué depuis 1791. Mais au-delà de ces réformes successives, les jurés demeurent-ils donc sous influence ? Pour beaucoup, cette question est toujours d'actualité et on imagine aisément qu'elle devait être centrale lorsque la peine de mort était encourue et que Robert Badinter plaidait avec acharnement et courage contre cette justice qui, à l'époque, tuait. Mais de quelle influence s'agit-il réellement ? De celle des magistrats professionnels, toujours suspectés d'exercer une forme de pression sur le citoyen juré ? De celle des médias, qui relaient parfois l'appel à la vindicte populaire ? Ou encore de l'influence sur les jurés, de leur propre parcours de vie et de leurs a priori sur la justice ? À travers mon expérience de la Cour d'assises, je peux attester que la connaissance de nos concitoyens sur la justice criminelle a considérablement progressé ces dernières années, sans doute grâce à quelques affaires retentissantes, comme celle de l'affaire Doutreau, mais également en raison du travail pédagogique de la presse, de la radio et de la télévision des journalistes. Donc, ils n'arrivent plus vierges de toute connaissance en procédure pénale. Par ailleurs, les jurés suivent maintenant une demi-journée de formation en présence du président, d'un avocat général et d'un membre du barreau en début de session, sur le rôle de chacun au cours de l'audience, mais également sur le rôle de chacun au cours du délibéré. Cette demi-journée s'accompagne de la projection d'une vidéo très pédagogique et est suivie, lorsque cela est possible, par une visite de maison d'arrêt. J'ai personnellement constaté à quel point il fallait gagner leur confiance au cours des premières heures du procès, tant dans l'impartialité de la présentation de l'affaire que par la connaissance très fine du dossier qu'ils exigent du président. D'autant qu'à présent, ils se renseignent bien souvent sur Internet pour lire tout ce qui a pu être écrit sur le dossier, mais également sur les différents acteurs du procès, président compris. Combien de fois ai-je entendu un juré me décrire mon parcours professionnel et les précédentes affaires que j'avais jugées ? Ils se renseignent sur vous, à la fois par curiosité, bien sûr, mais aussi pour se faire une idée du professionnel que vous êtes et de la confiance qu'ils peuvent ou non avoir en vous. En outre, comme tout lien de confiance, il peut rompre à tout moment si le président commet une erreur sur sa connaissance du dossier ou manifeste un tant soit peu sa conviction, même en dehors de l'audience, notamment à l'occasion des suspensions. Mais l'influence émotionnelle des procès d'assises demeure très forte. Elle est intimement liée à la nature des affaires criminelles. À cet égard, j'ai toujours considéré que le procès d'assises doit être le miroir de la réalité du passage à l'acte, mais aussi parfois de parcours d'accusés très carencés, voire déstructurés dès la petite enfance. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans les affaires de pédophilie, jugées parfois 10, 15 ou 20 ans après les faits, comme dans l'affaire de l'école en bateau, association post-68arde, qui préconisait une pédagogie par la découverte de la mer à travers des croisières à l'autre bout du monde, au cours desquels des générations d'enfants avaient été agressés sexuellement. J'ai toujours projeté les photos des enfants victimes devenus des adultes de 30 ans ou 40 ans au moment du procès, tels qu'ils se présentaient à l'époque, afin que les jurés puissent voir leur morphologie et leur physionomie au moment des faits. De même, je diffusais systématiquement les enregistrements audiovisuels des enfants victimes, devenus obligatoires au moment de leur plainte dans les locaux de police ou de gendarmerie, et il n'était pas rare que face à la force probante de ces dépositions d'enfants de 7, 8 ou 10 ans, l'accusé admette au moins partiellement sa culpabilité, tant la gestuelle de ces enfants victimes, l'expression de leur souffrance, de leur gêne, de leur sentiment de culpabilité, de leurs larmes, ou encore tout simplement de leur silence, était aussi convaincant qu'une preuve génétique ADN. Dans l'affaire du gang des barbares, j'ai décidé de diffuser l'enregistrement sonore d'Ilan Halimi, implorant ses parents de verser la rançon exigée par Youssouf Fofana, qui avait été envoyée à ses parents quelques jours avant l'assassinat d'Ilan Halimi. J'ai en effet considéré que cette pièce à conviction, confectionnée par les ravisseurs eux-mêmes, devait être connue des jurés et que la seule lecture du procès-verbal de transcription de cet enregistrement ne suffisait pas à appréhender à sa juste mesure la détresse d'Ilan Halimi. Mais connaissant la force émotionnelle de cet enregistrement, diffusé bien entendu avec l'accord de la victime, j'ai préparé en amont les jurés, nous avons fait une suspension après sa diffusion, suspension indispensable pour retrouver la nécessaire sérénité pour juger. De la même manière, j'ai toujours lu intégralement les rapports d'assistance éducative concernant l'enfance dévastée de certains accusés. Mais combien de fois ai-je vu des jurés avoir les larmes aux yeux à la suite de la déposition d'une victime ou de ses proches, et même parfois d'un accusé au parcours très carencé ? Combien de fois ai-je vu des jurés arriver le matin à l'audience, totalement blêmes, après une nuit blanche, angoissés par la responsabilité de la prise de décision ? Il faut alors accompagner les jurés dans la gestion de cette angoisse et de cette émotion, en leur expliquant qu'au cours des débats, il n'est pas question de trancher la question de la culpabilité ou de la peine, et qu'au contraire, il faut se l'interdire intellectuellement, afin de rester totalement ouvert à tous les arguments de la défense et de l'accusation, dans cette posture inconfortable, mais qui est celle du doute, et qui est, à mon sens, la seule manière de conserver toute sa raison dans le cheminement qui doit être celui d'un juge. Mais l'influence la plus suspectée est bien entendu celle qui peut s'exercer sur eux au moment du délibéré. Avant de se retirer pour délibérer, le président doit donner lecture des dispositions de l'article 353 du Code de procédure pénale qui ont traversé les siècles ou presque, tant la formulation qui doit être affichée dans la salle des délibérations est exemplaire de finesse et d'intelligence. Et je cite cet article. « Sous réserve de l'exigence de motivation, de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de rechercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Et ce n'est qu'après la lecture de cet article que la Cour peut se retirer pour délibérer. La référence explicite à la raison est essentielle pour exiger des jurés qu'ils écartent toute décision résultant de l'émotion ou des présupposés non argumentés. Le président doit veiller, par ailleurs, au phénomène de prise de pouvoir au sein même du jury. Cette petite communauté humaine, composée de citoyens qui ne se connaissaient pas quelques jours avant le délibéré, se forme à une vitesse stupéfiante, soudée par l'aventure judiciaire à laquelle ils sont confrontés. Il ne leur faut en général que quelques heures d'audience pour se tutoyer, déjeuner ensemble et échanger sur leur vie personnelle, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Le film « L'Hermine » de Christian Vincent avec Fabrice Luchini illustre parfaitement cette dynamique de groupe. Il appartient donc au président de s'assurer que des jurés dotés de fortes personnalités ne prennent pas l'ascendant au sein du jury, empêchant aux voix minoritaires de s'exprimer librement. Ces assesseurs peuvent être très précieux pour l'alerter sur ce type de prise de pouvoir interne au jury. Ensuite, bien entendu, L'influence peut être exercée par les professionnels sur les jurés. Toutefois, la présence de trois magistrats professionnels constitue, à mon sens, une garantie. En effet, la plupart du temps, le président ne connaît pas ses assesseurs, qui changent d'ailleurs pour chaque dossier. Personnellement, je les vouvoyais et je crois sincèrement que nous exercions un contrôle les uns vis-à-vis des autres. En outre, j'ai toujours veillé à ce qu'aucun juré ne connaisse mon intime conviction avant d'entrer dans la salle délibérée à l'issue des débats. Sur le plan de l'organisation du délibéré, je prenais la parole en dernier, laissant toutefois mes assesseurs livrer leur analyse dans le cadre du tour de table. Préalablement, j'ai expliqué à mes jurés qu'un bon délibéré est un délibéré au cours duquel chacun peut faire part de ses réflexions, de ses interrogations, sans crainte de changer d'avis dans le cadre d'un cheminement intellectuel collectif. J'appelais également leur attention sur le fait qu'il faudrait ensuite écrire notre motivation, tant sur la culpabilité que sur la peine, en répondant à tous les arguments soulevés au cours de l'audience. Mais après 4 à 5 tours de table, sur la question de la culpabilité, j'estimais, si tout le monde en était d'accord, qu'il convenait de voter afin de ne jamais basculer dans une stratégie d'épuisement des jurés. Il m'arrivait également, lorsque les échanges étaient très denses et très anxiogènes, de leur proposer une suspension pour que chacun puisse réfléchir silencieusement et individuellement, en âme et conscience, en recherchant quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense, pour reprendre la magnifique formulation de l'article 353 du Code de procédure pénale. Je me suis toujours interdit de recourir à la technique du vote blanc consistant à tester le jury pour prolonger les discussions si le résultat ne satisfaisait pas le président. Le vote sur la peine était précédé d'explications très précises sur les critères légaux destinés à définir, au regard de l'échelle des peines, la juste sanction. Ainsi, je leur ai expliqué que nous devions tenir compte de la gravité des faits pour rechercher une sanction proportionnée à la transgression, prendre en considération les intérêts de la victime sans jamais oublier l'objectif de réinsertion du condamné. En d'autres termes, je leur disais que la peine devait être acceptable pour le peuple français, au nom duquel nous la prononcions, comprise par la partie civile et admise par l'accusé. Le vote se déroule ensuite par élimination de la peine la plus forte tant que la majorité requise n'est pas atteinte. Enfin, la lecture de la feuille de motivation lors du verdict est un moment essentiel pour donner du sens à la décision et faire comprendre à l'accusé, mais aussi à la société tout entière, à travers la presse judiciaire souvent présente, les raisons qui ont emporté la conviction de la cour d'assises. Puis-je, dès lors, affirmer que mes jurés n'ont jamais été sous mon influence ? Très sincèrement, je ne le pense pas, mais à l'inverse, il m'a pu arriver d'être également sous la leur. L'œuvre de justice est profondément humaine, et à l'heure des algorithmes et de la justice prédictive, heureusement, qu'elle demeure le résultat de cette alchimie relationnelle faite d'intelligence collective. Un verdict d'assises comporte toujours sa part d'ombre. Il est nécessairement le fruit de la somme des influences conscientes et inconscientes exercées par l'ensemble des acteurs du procès. Le nier serait hypocrite, la vérité judiciaire n'étant que le reflet de vérité conjuguée de chacune des parties. Pour conclure mon propos, permettez-moi d'évoquer encore quelques réflexions d'actualité soumises à nos cours d'assises, telles des miroirs de notre société, celle de la place de la victime, celle de la prescription et celle de la responsabilité des personnes démentes. Tout d'abord, la place de la victime dans nos procès criminels. Il fut une époque pas si lointaine où les victimes n'avaient guère leur place. Tout juste acceptait-on leur présence, accessoire à l'audience pénale, pour évaluer leur préjudice. Peu à peu, d'accessoires, elles sont devenues des parties à part entière, tendant à devenir, ne serait-ce qu'en raison du temps d'audience qui leur est consacré, les parties principales du procès. Ainsi, sur les 10 mois d'audience du procès des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs mois ont été consacrés aux auditions des parties civiles. Et l'on évoque maintenant fréquemment l'objectif psychothérapeutique du procès. Pour l'ancien président de cour d'assises que je suis, cette question est très complexe, car j'ai pu en effet constater à de nombreuses reprises à quel point les victimes ont besoin d'être connues comme telles par la justice pour survivre à leur traumatisme, à l'issue d'un procès méticuleux au cours duquel elles auront pu s'exprimer et exprimer leur souffrance. Mais si la justice peut participer à une forme de réparation psychologique, elle n'a pas vocation à être thérapeutique. Et les psychologues et psychiatres s'accordent tous pour dire qu'un verdict n'est de loin pas suffisant à soigner un traumatisme. En d'autres termes, il faut toujours expliquer aux victimes que la sanction en cas de culpabilité ne suffira pas à elle seule à effacer ce traumatisme qu'elles ont subi et qu'il faudra qu'elles trouvent en dehors de l'enceinte judiciaire les moyens de vivre encore et toujours avec leur traumatisme. Mais le bon équilibre entre justice et réparation n'est jamais simple. Les Canadiens, qui ont bien souvent de l'avance sur nous, sur ces questions, ont développé une méthode dite de justice restaurative qui met en présence des victimes et des auteurs dans le cadre de groupes de parole destinés à faire comprendre à ceux-ci les dégâts causés par leurs agissements. Le film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry illustre parfaitement cette démarche. La question de l'allongement des délais de prescription, notamment en matière de viol et d'agression sexuelle sur les mineurs, qui peuvent être jugés pour les plus graves, 30 ans après que la victime ait atteint la majorité, soit jusqu'à l'âge de 48 ans, soulève également bien souvent des difficultés insurmontables de preuve qui peuvent aboutir à des acquittements très difficiles à vivre pour ces victimes. Mais à l'inverse, l'impunité au nom de l'écoulement du temps est difficilement acceptable. Je l'ai personnellement constaté dans l'affaire de l'école en bateau qui a permis à des enfants victimes de viol devenus adultes d'expliquer pourquoi il leur avait été impossible de parler plus vite et pourquoi leur vie avait été déstructurée par ce qu'ils avaient vécu. Le film « Grâce à Dieu » de François Ozon démontre à cet égard parfaitement la difficulté de juger des décennies après les faits et pourquoi, néanmoins, il faut essayer de le faire. De même que notre société n'accepte plus que l'écoulement du temps puisse être une cause d'irresponsabilité pénale, nous comprenons de moins en moins que la maladie psychiatrique puisse faire échapper le démon à la justice. Or, depuis le Moyen-Âge, la France ne jugeait plus ses fous. Et pourtant, à la suite de l'affaire du meurtre de Sarah Halimi en 2017, défenestrée par un homme qui entendait des voix et entendait des propos antisémites, la loi a été modifiée de façon à permettre le jugement de toute personne dont le discernement était temporairement aboli au moment des faits, si, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la consommation, la commission. En quelque sorte, la question n'est plus seulement de savoir si au moment des faits votre discernement ou le contrôle de vos actes a été aboli, mais pourquoi il l'a été. Et si vous avez volontairement participé au processus ayant entraîné l'abolition de votre discernement, vous serez déclaré coupable et condamné, même si vous étiez totalement dément et que vous entendiez des voix vous ordonnant d'agir au moment du passage à l'acte. Juger donc, juger pour réparer l'irréparable, juger alors que l'écoulement du temps a détruit toutes les preuves, juger les personnes dont le discernement était aboli, toutes ces questions illustrent notre attente infinie à l'égard de la justice, qui n'est pourtant faite que d'hommes et de femmes faillibles, et dont on espère qu'ils jugent comme ils aimeraient eux-mêmes être jugés, en recherchant la part d'humanité qui nous relie à tout accusé, même coupable, des faits les plus graves. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le Président, de ces fortes paroles fondées sur votre expérience. Je donne tout de suite la parole donc à Madame Galen pour son exposé.
Merci. La Cour criminelle départementale, une nouvelle juridiction. C'est ainsi que je commence mon propos, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Madame et Messieurs les académiciens. Denis Salas, qui est un éminent analyste de nos institutions judiciaires, a écrit « Avec son jury populaire, la Cour d'assises est le miroir d'un idéal démocratique. Cet idéal, pour désirable qu'il soit, a toutefois connu quelques revers. Le constat a en effet été fait que, confrontée à la pratique et à l'inflation des procédures criminelles, la Cour d'assises peinait, depuis de nombreuses années, à remplir son rôle premier, celui de juger les affaires criminelles dans un délai raisonnable et celui, ensuite, de juger toutes les affaires susceptibles de revêtir une qualification criminelle. En effet, dans les cours d'assises des grandes et moyennes juridictions de notre territoire, les dossiers criminels impliquant des accusés libres n'étaient plus jugés qu'au compte-gouttes et distillés dans les sessions d'assises en grande majorité composées d'accusés en détention provisoire. De plus, la pratique massive de la correctionnalisation pour faire face à l'afflux des procédures de viol à la suite des évolutions de notre société, portées notamment par le mouvement MeToo, aboutissait à dégrader ces crimes en agressions sexuelles pour les juger devant les tribunaux correctionnels, au risque de méconnaître l'intérêt des victimes et de fausser la réponse judiciaire. Peut-on donc se réjouir d'une juridiction criminelle avec jurés si cette juridiction ne parvient plus à juger, et doit-on s'interdire de trouver des solutions pour y remédier ? Ces constats ont entraîné une réflexion qui a conduit à l'expérimentation, puis à la création définitive de ce qu'on appelle désormais la Cour criminelle départementale. Pourquoi a-t-on créé les cours criminelles départementales ? Ce qui a sous-tendu cette création peut ainsi être résumé : juger plus vite et juger mieux. Le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, présenté par Madame la garde des Sceaux Nicole Belloubet, s'est donné pour but d'améliorer la gestion et le fonctionnement de l'institution judiciaire, tant dans sa sphère civile que dans sa sphère pénale. Le volet de la réforme concernant la cour d'assises a été initié durant l'année 2018. Les responsables des groupes de travail chargés de proposer les réformes de procédure pénale susceptibles d'améliorer la gestion des juridictions ont intégré les attentes de plusieurs chefs de cour d'appel, parmi les plus importantes, pointant les contraintes de gestion des cours d'assises, lesquelles devenaient de plus en plus difficiles à assumer. Il a alors été décidé de rechercher les moyens de désengorger les cours d'assises. La Cour criminelle expérimentale visait donc à répondre, selon la loi Belloubet, à un double objectif. Le premier, restaurer à des faits correctionnalisés leur véritable qualification juridique, et d'autre part, juger les affaires criminelles dans des délais plus rapides, puisque les personnes détenues devaient être jugées dans le délai d'un an maximum à compter de la décision de mise en accusation devant la Cour criminelle au lieu de 2 ans maximum devant la Cour d'assises. Sans remettre en cause le principe du peuple juge que constitue la Cour d'assises avec juré, laquelle demeurait compétente en appel et pour les crimes les plus graves, la Cour criminelle présentait dès lors l'avantage de juger plus rapidement et dans des délais plus brefs les crimes punis jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle commis par des majeurs non récidivistes, essentiellement donc les crimes de viol, de ce qu'on appelle les coups mortels et les vols à main armée, ce qui était important pour les victimes comme pour les accusés, particulièrement si ces derniers étaient détenus. Il doit être souligné que ce problème de délai entre la date des faits et l'audience de jugement est essentiel et ne se réduit pas à un simple impératif gestionnaire, puisque juger l'auteur de faits qualifiés crime trop longtemps après leur commission porte atteinte au respect du délai raisonnable imposé par la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, ce ne sont que 57% des crimes qui étaient concernés par les cours criminelles, les autres crimes, punis de peines supérieures à 20 ans de réclusion criminelle, restant de la compétence des cours d'assises. Comment les cours criminelles départementales sont-elles composées ? Et pourquoi a-t-on choisi cette composition ? La loi Belloubet du 23 mars 2019 prévoyait, au stade de l'expérimentation, que les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ou de 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la Cour criminelle. Cette Cour est également compétente pour le jugement des délits connexes à ces crimes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs accusés qui ne répondent pas aux conditions prévues par cet alinéa. La Cour criminelle, qui siège au même lieu que la Cour d'assises, est composé non pas de magistrats professionnels et de jurés, mais d'un président et de 4 assesseurs. Choisis en ce qui concerne le président par le premier président de la Cour d'appel, parmi les présidents de chambre ou les conseillers du ressort de la Cour d'appel, qui sont tous, rappelons-le, des présidents de cours d'assises, et pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. 2 des assesseurs dans cette composition de la Cour criminelle peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Et donc, les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis hors récidive un crime mentionné au premier alinéa de cet article 181 du Code de procédure pénale sont mis en accusation par le juge d'instruction, non plus devant la Cour d'assises, mais devant la Cour criminelle. Le délai d'un an, qui est prévu au 8e alinéa de cet article 181, est alors réduit à 6 mois et ne peut être prolongé qu'une seule fois, ce qui fait qu'en effet, à compter de la décision de mise en accusation, les personnes détenues doivent obligatoirement être jugées devant la Cour criminelle au maximum au bout d'un an et non pas au bout de 2 ans, comme devant la Cour d'assises. La Cour criminelle départementale, dans le cadre de cette loi Belloubet, a été expérimentée, rappelons-le, dans 15 départements. Un bilan a été naturellement conduit à la suite de cette expérimentation et suite aux résultats favorables de cette expérimentation, la loi du 23 décembre 2021, dite « Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire », a repris les éléments de cette cour criminelle et créé, donc, aux articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale, la cour criminelle départementale. La composition de la cour criminelle, donc, qui est maintenant est une juridiction généralisée sur l'ensemble du territoire, y est identique à celle qui était prévue dans le cadre de l'expérimentation, sauf à y ajouter, à titre expérimental dans 20 cours criminelles jusqu'au 1er janvier 2026, la possibilité de nommer comme assesseur un avocat honoraire juridictionnel au sein de cette composition. La composition de la cour criminelle, telle qu'ainsi définie, tant dans la loi Belloubet que dans la loi Confiance du 23 décembre 2021, permet de ne plus procéder au lourd dispositif de tirage au sort des jurés pour plus de la moitié des affaires criminelles, en première instance, ce qui constitue un gain de temps pour le travail du greffe et une économie substantielle. Les présidents de cour d'assises avaient également pu remarquer au fil du temps, ce qui a donné lieu à des échanges parfois inquiets sur les plateformes professionnelles, une difficulté à composer des jurys de session de cour d'assises. En effet, pour juger une affaire aux assises et pour procéder à un tirage au sort digne de ce nom, il faut en première instance qu'il y ait au moins 20 jurés à mettre le nom de 20 jurés à mettre dans l'urne pour qu'on puisse tirer au sort, et lorsqu'on est en appel, 23 jurés. Or, au début de ce qu'on appelle la révision de la liste de sessions d'assises, on s'est aperçu au fil du temps que nombre de jurés susceptibles de participer à des sessions de cours d'assises demandaient à être dispensés de cette fonction, pourtant obligation civique, en mettant en avant parfois des arguments tout à fait recevables liés à des problèmes de santé ou des problèmes professionnels graves, mais aussi parfois dans ce qu'il est convenu d'appeler peut-être des demandes un peu dilatoires pour échapper à la contrainte que peut constituer pour un juré qui, par ailleurs, peut avoir une profession et une activité personnelle, la présence potentielle pendant 15 jours ou 3 semaines selon la durée des sessions d'assises. Certains ont pu s'inquiéter également, en ce qui concerne donc la création de la cour criminelle, de la mobilisation de 5 magistrats professionnels en cour criminelle au lieu de 3 dans la cour d'assises, notamment en termes de ressources humaines en magistrats. Le manque de magistrats disponibles risquant d'aggraver les délais de jugement. En outre, le nombre de dossiers dont la cour criminelle serait saisie à la suite de la décorrectionnalisation de certaines affaires d'abus sexuels était perçu comme pouvant emboliser à terme le fonctionnement de la cour criminelle. Force est toutefois de constater que même si ce problème d'effectifs demeure extrêmement préoccupant et pèse incontestablement sur les juges des tribunaux judiciaires, un renfort significatif en magistrats ainsi qu'en magistrat à titre temporaire et magistrat honoraire a été acté et programmé pour les années à venir dans le sillage de l'adoption de la loi Confiance et que des recrutements d'avocats honoraires juridictionnels se mettent en place partout sur les territoires avec une formation assurée 2 fois par an par l'antenne parisienne de l'École nationale de la magistrature. En outre, il faut prendre en compte le fait que les dossiers jugés en cour criminelle sont autant de dossiers qui ne sont plus jugés en cour d'assises, ce qui, combiné aux jours gagnés en durée d'audience entre la cour criminelle et la cour d'assises, tel que constaté en tout cas au stade de l'expérimentation, ne permet pas, selon nous, d'affirmer que des délais vont être aggravés. Certaines personnes ont émis également la crainte que la présence de magistrats honoraires et de magistrats temporaires dans la composition des cours criminelles, qui réduit à 3 le nombre de magistrats de plein exercice dans la composition, n'altère la qualité du délibéré. Nous pensons, et la pratique le confirme, que le fait que 2 magistrats sur 5 puissent être des magistrats à titre temporaire ou honoraire dans la composition de cette cour criminelle ne marque aucunement une baisse de qualité, mais introduit au contraire une mixité intéressante quant à la composition de cette juridiction. De plus, les magistrats à titre temporaire sont souvent d'anciens magistrats professionnels. Introduire des avocats honoraires dans la composition de la cour criminelle pour que des personnes extérieures qualifiées siègent aux côtés des magistrats renforce aussi, à notre sens, le caractère citoyen de la cour criminelle et fait pièce à la critique de l'entre-soi qui a parfois été émise. Il doit être souligné que les retours d'expérience de ces avocats honoraires juridictionnels sont particulièrement positifs, tant de la part de ces avocats eux-mêmes qui ont participé à des cours criminelles, que de la part des présidents de cours criminelles, les points réalisés par l'antenne parisienne de l'ENM, de l'École de la magistrature, confirmant ces éléments positifs. Quels sont les résultats depuis la mise en application de la réforme? Au stade de l'expérimentation de la Cour criminelle, hein, à la suite de la loi Belloubet, la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice avait mis en place des outils pour évaluer cette expérimentation. Et c'est ainsi qu'il avait pu être constaté par le service statistique de cette Direction des affaires criminelles que 89% des affaires jugées en cour criminelle ne concernaient qu'un seul accusé et que la moitié des décisions prononcées par les cours d'assises concernait la cour criminelle. Hein, c'est environ à peu près la moitié des affaires habituellement jugées par les cours d'assises qui basculaient en cour criminelle, du fait de la présence importante des abus sexuels et des viols en particulier au niveau des cours d'assises. 92% des affaires traitées étaient de nature sexuelle. Les autres infractions, telles que les vols avec usage ou menace d'une arme et les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, étant plus résiduelles. Dans 19% des cas, l'audience prévue était d'une journée. Elle était de 2 jours dans 56% des cas. Dans seulement 6% des affaires, 5 magistrats de plein exercice siégeaient. Et la majorité du temps, donc, au stade de l'expérimentation, la cour criminelle était composée de 3 magistrats de plein exercice et de magistrats honoraires ou de magistrats à titre temporaire. Il a pu être également évalué qu'on avait gagné du temps entre la fin de l'instruction et l'arrêt de la cour criminelle par rapport à la cour d'assises, ce délai étant de 8 mois lorsqu'au moins un accusé était en détention provisoire et de 14 mois lorsque les accusés étaient libres. Ces délais en cour criminelle variaient fortement d'une cour à l'autre, mais il était intéressant de noter que le délai moyen de jugement des cours d'assises des mêmes ressorts en cas de détention pouvait être de 2 à 3 fois plus élevé que celui qu'on constatait en cour criminelle. Il a pu être également évalué que 96% des personnes accusées devant les cours criminelles étaient des hommes, que le taux d'acquittement d'environ 6% était identique au taux d'acquittement qu'on retrouve devant les cours d'assises pour majeurs, et le contentieux relatif au vol à main armée, comme je le disais tout à l'heure, et coup mortel, semblait être marginal. Une peine d'emprisonnement ferme ou de réclusion avait été prononcée dans 97% des cas, et lorsque la condamnation visait un viol, une peine privative de liberté ferme était prononcée d'une durée moyenne de 10 ans. Il a pu être également noté que lorsque les personnes étaient condamnées pour viol par une cour criminelle par rapport aux condamnations pour viol devant les cours d'assises, il était très majoritairement, à 69%, prévu également par la juridiction une peine de suivi socio-judiciaire. Je rappelle en un mot, la peine de suivi socio-judiciaire, c'est une peine complémentaire qui s'ajoute à la peine d'incarcération et dont l'idée est de prévenir la récidive en instaurant un suivi à la sortie de détention par le juge d'application des peines qui va astreindre la personne qui a été condamnée à un certain nombre d'obligations, notamment des obligations de soins, d'indemnisation des victimes. Depuis la mise en place de la réforme et de la généralisation des cours criminelles départementales, aucun outil aussi probant n'a été mis en place pour mesurer ces cours criminelles. Toutefois, les échanges professionnels et les constatations qui ont pu être faites, notamment au niveau de la cour d'appel dans laquelle j'œuvre, ont pu remarquer que aucun élément ne venait contredire dans son fonctionnement ce qui avait pu être constaté au stade de l'expérimentation, à savoir la conservation de l'oralité des débats, hein, qui était quand même un point très important, la conservation du contradictoire et également la durée moyenne des audiences qui, on le voit, en cour criminelle, les audiences durent en moyenne 1 jour et demi, 2 jours, quand en cour d'assises, la moyenne est de 3 jours et demi. Et le taux d'appel et le quantum des peines prononcées étaient proches de celles et de ceux donnés en cour d'assises. Il a pu également être suggéré que les cours criminelles pourraient avoir un effet bénéfique en ce qu'elles pouvaient aboutir à peut-être lisser la jurisprudence. On le sait, en cours d'assises, il peut arriver que parfois les peines s'envolent vers les extrêmes ou au contraire soient considérées, lorsqu'on lit parfois la presse, comme insuffisantes. Et la cour criminelle est aussi une juridiction qui, dans la mesure où elle est composée de professionnels, est perçue comme de nature à pouvoir apporter une plus grande stabilité, notamment dans les peines. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on ne peut pas tirer véritablement d'enseignement à ce niveau. Quelles critiques ont suscité cette réforme de la Cour criminelle, hein, parce que c'est quand même un peu une nouveauté complète, même si depuis longtemps il était question peut-être d'amoindrir la place du jury populaire dans le jugement des crimes en France. Au stade de l'expérimentation, il faut être noté qu'il y a eu une mobilisation négative des avocats pénalistes et de certains syndicats de magistrats qui s'est manifestée dès le début de l'expérimentation des cours criminelles, et même avant ses débuts. Les principales critiques émises tenant à la perte supposée de l'oralité des débats, au risque d'aggraver la rupture entre le peuple et les institutions censées le représenter, au risque d'une justice de l'entre-soi, sans compter les difficultés liées à la mobilisation d'un plus grand nombre de magistrats pour former ces cours, ainsi qu'aux règles de simple majorité pour le verdict sur la culpabilité et la peine. Il est toutefois intéressant de constater que les avocats, y compris les avocats pénalistes, qui ont participé dans les 15 sites expérimentaux au jugement de crimes en cour criminelle, n'ont pas persisté dans cette vision négative de cette juridiction, comme le montrent les avis qui ont pu être recueillis. Aucune critique n'a en effet été émise par ceux qui ont participé à ces cours, et cela dès le début, puisque le contradictoire, l'oralité des débats, la composition avec uniquement des professionnels étant perçue comme un gage de juridiction sereine et stable qui permet de juger plus rapidement, tant par la durée de l'audience qu'en raison des délais butoirs instaurés, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour juger les accusés détenus. Il a également été noté un coût financier moindre, compte tenu du fait qu'on n'a pas recours aux jurés populaires, et le fait que la cour d'assises demeurait toujours, puisqu'elle demeure compétente pour les crimes punis d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, et elle demeure compétente en tout état de cause en appel, puisque les décisions des cours criminelles sont jugées en appel par une cour d'assises d'appel classique. Depuis la réforme du 23 décembre 2021 et la généralisation des cours criminelles sur l'ensemble du territoire, il est intéressant de noter qu'en dépit des conclusions positives du fonctionnement expérimental, qui avait pu être également recueilli par différentes instances, à savoir la mission flash de l'Assemblée nationale, un rapport du 16 décembre 2020 des députés Mazard et Savigna, par la commission Getty, un rapport du 11 janvier 2021, par la mission recherche droit et justice, le rapport de Mme Beignet de novembre 2022, et par le comité d'évaluation des cours criminelles, c'est un rapport de mai 2022. Donc, c'est l'ensemble de ces travaux a confirmé le bon fonctionnement de ces cours criminelles. Les opposants à la cour criminelle départementale ont malgré tout continué de critiquer, bien sûr, cette juridiction. Notamment, cette parole a été portée et a abouti d'ailleurs à des QPC, question prioritaire de constitutionnalité, et le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation au mois de novembre dernier afin de se prononcer sur deux questions prioritaires de constitutionnalité et a rendu la décision suivante. Cette décision du 24 novembre 2023 du Conseil constitutionnel a considéré que le nouveau corpus procédural de la Cour criminelle était conforme à la Constitution. Il a notamment refusé de consacrer, comme cela a été demandé, l'intervention d'un jury pour juger les crimes de droit commun comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il a par ailleurs écarté l'atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice pour les motifs suivants. En premier lieu, les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d'assises. Ainsi, en retenant de tels critères, le législateur, dit le Conseil constitutionnel, n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre ces personnes. Le Conseil a également indiqué, d'autre part, si les accusés ne sont pas soumis aux mêmes règles de majorité selon qu'ils comparaissent devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle départementale, cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions. En second lieu, à l'exception de celles mettant en jeu la présence du jury, le Conseil constitutionnel indique que les règles de procédure applicables devant la cour criminelle départementale sont identiques à celles applicables devant la cour d'assises. En outre, la cour criminelle départementale présente, par sa composition, les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité. Sont ainsi assurés aux accusés, qu'ils soient jugés devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes. Au-delà de ces débats juridiques, qui sont essentiels, il peut être énoncé que le modèle de la cour d'assises avec juré n'est pas sans défaut, que la pratique des présidents de cour d'assises les confronte aussi, il faut le dire, à des difficultés croissantes de compréhension par les jurés de notions juridiques telles que celles de la tentative, de la complicité, de la réunion, de l'intention homicide, cette dernière étant souvent confondue avec la préméditation, et surtout, au regard de la place grandissante des réseaux sociaux et de ce que certains ont pu appeler le tribunal de l'émotion, à la pollution des débats devant la cour d'assises et de la compréhension d'une affaire en raison des commentaires parallèles, y compris durant l'évocation de l'affaire elle-même, auxquels les jurés, en dépit des mises en garde qui leur sont régulièrement adressées, sont tentés d'accéder, ce qui va fausser, de ce fait, leur compréhension des situations qui devraient, au terme de leur serment, ne reposer que sur les éléments qui sont exposés contradictoirement et oralement devant la cour criminelle et la cour d'assises. Un article qui nous paraît pertinent avait en son temps résumé les enjeux de cette réforme, et je terminerai mon propos sur cet article. Il était intitulé « Réformer les assises pour mieux les préserver ». Il était paru au journal Le Monde le 6 juin 2020. Ses auteurs, magistrats en exercice, Jean-Christophe Muller et David Sénat, soulignaient que la cour d'assises devait se réinventer, que le jury n'était véritablement devenu populaire, ça a été rappelé tout à l'heure par M. Laurent, qu'en 1978, par tirage au sort sur les listes électorales, que depuis 1987 puis 2005, les jurés ne participaient plus aux cours d'assises terroristes ni aux affaires criminelles de trafic de stupéfiants, que leur nombre avait été réduit et que l'on pouvait faire appel devant un autre jury depuis 2000. Dans ce contexte, disaient les auteurs de cet article, la question du transfert de certaines compétences de la cour d'assises à une cour criminelle départementale, composée uniquement de 5 magistrats professionnels, nourrie par le souci de fluidifier les stocks, était apparue sur la scène législative avec le projet Toubon. Déjà en 1995, un projet avait un petit peu initié ces cours criminelles, ça n'a pas été suivi des faits, pour aboutir finalement à l'expérimentation des cours criminelles par la loi Belloubet, puis à la généralisation depuis 2021. Ces auteurs estimaient qu'il était moins que jamais pertinent d'opposer maîtrise des flux et qualité, dès lors que l'injonction à traiter plus vite les stocks d'affaires à juger renvoyait en réalité au droit pour chacun, accusé ou victime, d'être jugé dans un délai raisonnable, ce que proclamait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dès lors que chacun s'accordait sur la nécessité de réduire la détention provisoire, on ne pouvait que s'accorder sur la nécessité de juger aussi plus rapidement. Selon eux, ne pouvant rester à l'écart du mouvement de la société, la justice devait se réinventer, magistrats et avocats devant y contribuer. Je vous remercie.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir tenu le temps, ce qui était difficile compte tenu de l'ampleur de la tâche, et nous mesurons les difficultés de l'exercice de vos missions.